Swing Time 2018. Swing Time sur Swing FM 101.2, la radio du Yacht Club de Limoges, est une émission préparée et présentée aujourd'hui par Jacques Canero et Dominique Gouguet. Bonjour messieurs.
Bonjour Alain.
Bonjour Jacques. Alain. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté ?
Eh bien écoute Alain, aujourd'hui, on est heureux d'accueillir à nouveau sur les antennes de Swing FM Jacques Canero, qui va intervenir sur le thème « Jazz, de l'expressivité à l'évocation » lors de 3 émissions consécutives. J'en profite pour rappeler aux auditeurs de Swing FM que les précédentes émissions thématiques de Jacques Canero peuvent être écoutées et téléchargées sur notre site internet à la rubrique « Téléchargement ». Et pour nous mettre en oreille, nous écoutons, en manière d'indicatif de cette première émission, un enregistrement de Cat Anderson avec une grande formation en 1958 pour le label Mercury, Birth of the Blues.
Thank you. J'ai plaisir, Dominique, à partager le micro avec toi et à retrouver les auditeurs de Swing FM pour une série de 3 émissions intitulées, comme tu l'as dit, « Jazz, de l'expressivité à l'évocation ». La quête de l'expressivité est constante chez un musicien, et en particulier chez un musicien de jazz. Car il s'agit pour lui de produire sur son instrument non pas le son le plus pur, le plus net ou le plus attendu, mais le son à la fois le plus révélateur de son tempérament et le plus approprié, selon lui, au thème qu'il doit interpréter. Comme chaque instrument a une sonorité spécifique, le jazzman s'emploie à la personnaliser en la façonnant par divers procédés. C'est à un inventaire succinct de ces techniques que nous vous convions dans cette première émission en forme de promenade au milieu des cuivres, des hanches et des instruments à cordes. Notre excursion débutera avec la trompette, traditionnellement perçue comme l'instrument emblématique du jazz. Elle sera représentée par le jazzman sans doute le plus célèbre au monde, Louis Armstrong. Chacun reconnaît infailliblement la trompette d'Armstrong à son volume, à son éclat, à sa fermeté, à sa rondeur, mais aussi à son vibrato exceptionnel, si proche de celui de sa voix, comme l'atteste ce « When You're Smiling » gravé pour Brunswick en 1956. L'interprétation compte 2 chorus. Le premier est chanté et toutes les ultimes syllabes des mots placés en fin de phrase sont prononcées avec un large vibrato. Suivra un chorus de trompette grandiose, montant progressivement vers l'aigu, chorus d'une plénitude étonnante, avec des phrases découpées avec netteté, aux notes bien détachées. Remarquez qu'Armstrong n'improvise pas, ne paraphrase pas. Il se borne à jouer le thème, mais en concentrant sur chaque note un poids considérable, accentué par son inimitable vibrato. When you're smiling.
Oh, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you, baby. Yes, when you're laughing. When you're laughing, yes, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby, and I hope it's mine. Thank you.
Parmi les disciples d'Armstrong figure un trompettiste de premier plan qui s'illustra notamment dans les rangs de l'orchestre de Duke Ellington. Charles Melvin Williams, bien connu sous le nom de Cootie Williams, un des artisans de ce style jungle ellingtonien dont nous parlerons ultérieurement. Cootie Williams était un éminent spécialiste de la sourdine wawa qu'il accompagnait de ses effets de grognement que l'on nomme le growl. Il avait l'art de faire parler l'instrument d'une façon rageuse, de pétrir la matière sonore, de sculpter chaque note, de la ciseler, de l'infléchir. Pour preuve, Cootie Williams, dans une interprétation envoûtante de son thème fétiche Echoes of Harlem, enregistré en 1959 pour Decca avec sa petite formation Echoes of Harlem.
Thank you.
Footy Williams eut longtemps pour voisin de pupitre chez Ellington le cornettiste Rex Stewart. Et c'est un heureux hasard de parler de Rex Stewart l'année où l'on fête le 70e anniversaire de la naissance du Hot Club de Limoges, dont Swing FM est la radio. Car c'est à l'occasion de la venue à Limoges de Rex et de son orchestre que Jean-Marie Mas conçut l'idée de créer un Hot Club. Rex Stewart donna un concert le 14 janvier 1948 à la salle Berlioz, aujourd'hui démolie, place de la République. Je n'ai pas assisté à ce concert, toi non plus Dominique, à plus forte raison, mais de grands anciens du club nous ont certifié qu'il fut grandiose.
Écoute Jacques, je crois qu'on peut faire confiance à leur jugement.
Rex Stewart avait un jeu bien différent de celui de Cootie Williams. Autant le jeu de Cootie était tendu, concentré, ramassé, autant celui de Rex était vif, alerte, imprévisible. Son expressivité propre, Rex Stewart la devait à sa sonorité feutrée, à son attaque mordante, à l'usage du growl et à la fréquente utilisation des pistons à demi abaissés. Cette dernière technique, consistant à atténuer soudain le son, voire à l'étouffer, conférait aux phrases du musicien un aspect original, insolite, particulièrement attrayant. Le disque de Rex, que nous écoutons maintenant, a été enregistré à Paris pour Barclay un mois avant le concert de Limoges, avec le même orchestre. « Don't get around much anymore ». Voici le même thème, interprété cette fois par un tromboniste, un des maîtres de la sourdine Plunger, ainsi nommé car c'était à l'origine une ventouse en caoutchouc à usage de débouchévier. Ce tromboniste est Al Gray, longtemps compagnon de route, entre autres, de Lionel Hampton et de Count Basie. Al Gray, dans ce disque de 1959 pour le label Argo, choisit un tempo paresseux et s'exprime avec une attaque puissante dans un discours sobre, sans la moindre emphase. On notera que ce grand technicien ne s'éloigne pas du thème et on remarquera comment il conjugue le recours à la plongeur avec une utilisation récurrente du growl. Don't get around much anymore. Nous allons délaisser le domaine des cuivres pour celui des hanches avec le saxophoniste alto Earl Bostic, seulement connu de nos jours des amateurs de jazz, alors qu'il bénéficia dans la décennie 1950 d'un vaste succès populaire attesté par une profusion d'enregistrements. Bostic était un virtuose, à l'aise sur n'importe quel tempo. Sa technique infaillible lui permettait d'aborder tous les registres avec un égal bonheur, du lyrisme le plus exalté à l'emportement le plus fougueux. Nous l'entendrons dans l'un de ses thèmes de prédilection, Flamingo, enregistré pour King en 1951. Une interprétation directe, dansante, sur un bon tempo médium, où le saxophoniste se fait tantôt volubile, tantôt musclé, s'appuie volontiers sur le temps et s'exprime avec un son rauque qui était devenu au fil du temps sa signature. Flamingo. Thank you. Côté saxo-ténor, l'histoire du jazz compte de nombreux maîtres de la ballade. Mais c'est peut-être dans le domaine du blues que le souci d'expressivité des ténors fut de tout temps le plus marquant. On pense aussitôt à des artistes comme Ike Quebec, John Hardy, King Curtis, Stanley Turrentine, David Newman, ou ces ténors du Texas qui ont pour nom Illinois Jacquet, Buddy Tate, Arnett Cobb. J'ai retenu un musicien moins réputé, Place Johnson, et pourtant célèbre mais anonymement puisqu'il fut au cinéma le soliste du fameux thème de La Panthère Rose. Dans ce Last Call, gravé en 1956 pour le label californien Tampa, Place Johnson s'exprime sur le blues avec véhémence. Une sonorité rappeuse, chargée de growl, des phrases simples et directes, avec des notes semblant s'étirer à l'infini. À partir du troisième chorus, il prêche littéralement le blues à ras de terre, comme on dit, et ce preaching style hargneux est d'une expressivité sans pareil. Last Call. Nous allons quitter les instruments avant, cuivres et hanches, pour un instrument à cordes frappées, le piano. Dans le disque suivant, Sonny Thompson, sans vraiment faire partie du cénacle des pianistes de blues, utilise des techniques spécifiques à ses pianistes. Pour ce blues For the Night Owls, en tempo lent, enregistré pour King en 1950, Thompson joue la carte de l'envoûtement. Passé le paisible exposé, il s'emploie à multiplier les trilles, à malaxer le clavier dans l'enregistre grave, créant ainsi une tension dramatique, renforcée parfois par des chapelets de notes dans l'aigu. Blues for the Night Owls. Des exemples de Place Johnson et de Sonny Thompson jouant le blues, on pourrait conclure que la barrière entre musiciens de jazz et bluesmen est arbitraire. Pourtant, les uns et les autres se mêlent rarement. Don Byas avec Big Bill Bronzy fut l'une des exceptions. Et les bluesmen bénéficient bel et bien d'un statut à part. La preuve en est qu'il existe des labels de blues, des magazines de blues, des dictionnaires de blues, des festivals de blues, des répertoires de blues, etc. Côté instruments, piano et guitare sont perçus historiquement comme consubstantiels au blues, la guitare surtout, car compagne inséparable des musiciens itinérants de jadis. Comme chez les jazzmen, les possibilités d'expressivité du jeu de guitare des bluesmen se sont assurément accrues grâce à l'électrification, ainsi que nous allons l'entendre dans un disque d'Earl Hooker. Comme je sais, Dominique, que le monde du blues n'a pas de secret pour toi, je te laisse présenter ce musicien moins célèbre que les B.B. King, T-Bone Walker ou Buddy Guy.
Il est moins célèbre aussi que son cousin, le fameux John Lee Hooker. Mais il est dans un style bien différent, un brillant guitariste. Il est en outre un spécialiste du bottleneck. C'était à l'origine un goulot de bouteille, traduction de bottleneck, plus tard un tube métallique que certains guitaristes de blues passaient au petit doigt de la main gauche et faisaient glisser sur le manche de leur instrument afin d'obtenir des sons proches de la voix humaine. Earl Hooker avait été initié au style bottleneck dans les années 40 alors qu'il habitait Chicago par un maître de la guitare slide, Robert Nighthawk. La manière dont ce dernier pratiquait ce style, plus velouté, moins âpre que la plupart de ses confrères, a fort bien été captée par Earl Hooker.
Merci Dominique. Ce style de talking guitar chargé de distorsion est en évidence dans les 7 chorus de l'expressif Drywing Will, gravé pour le label Blue Thumb en 1969.
Et 1969, c'est un an avant la disparition prématurée d'Earl Hooker, à l'âge de 41 ans.
Drywing Will, la roue motrice. Thank you. Même un instrument à cordes comme le violon a été utilisé par les bluesmen, mais de façon fort peu académique, notamment en raison de l'amplification électrique ou du jeu sur deux cordes, pratique aussi exploitée par des jazzmen comme Stuff Smith. Nous écouterons un enregistrement du guitariste, mais ici violoniste, Clarence Getmouth Brown, pour la compagnie Peacock en 1959. Style incisif, attaque mordante, répétitions insistantes, brusques incursions dans l'aigu. Just Before Dawn. À cet inventaire succinct de procédés d'expressivité mis en œuvre par les musiciens de jazz, on peut ajouter les effets induits par l'addition, la superposition, la fusion de sonorités différentes. C'est ainsi que Duke Ellington, que nous retrouverons fréquemment dans les deux émissions à venir, composa un concerto for four jazz horns, c'est-à-dire un concerto pour quatre instruments avant, à savoir une trompette, Taft Jordan, un trombone, Lawrence Brown, un saxo-baryton, Harry Carney, une clarinette, Jimmy Hamilton. Les quatre instrumentistes s'expriment d'abord individuellement, puis ils phrasent ensemble à l'unisson l'arrangement des chorus terminaux et de la coda. Jam Aditi, 1947, pour Capitol. Thank you.
Swing FM, Jacques et moi vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le second volet de cette thématique titrée « Jazz, de l'expressivité à l'évocation ». Bonne soirée à tous.